Et ce Sauveur est venu pour toutes les nations. Toutes ces nations sont rassemblées, centralisées autour de cette ville, Bethléem, Ephrata, ce qui veut dire fécondité, lieu de production de quelque chose qui dépasse tout entendement, lieu de bénédiction qui dépasse les frontières d'Israël et vient rejoindre tous ceux qui veulent adorer le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tous ceux qui veulent venir contempler la splendeur de Dieu incarné en ce petit enfant Jésus. Et dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul ne se trompe pas. Il ne vient pas écarter Israël de la bénédiction. Il ne vient pas rejeter l'élection promise à la descendance de David. Tous ceux qui deviennent chrétiens sont invités à être co-héritier. Co-incorporé. Co-participant de la promesse. Ce sont les termes utilisés, traduits littéralement depuis le grec, pour expliquer comment nous, les chrétiens, nous avons à vivre aux côtés du peuple juif, la promesse qui nous est faite et qui nous est donnée dans cet enfant Messie, promis à tous. C'est cela qui nous est présenté aujourd'hui. Les mages venus d'Orient viennent adorer le nouveau roi des Juifs, pas le nouveau roi du monde. Celui-là, il viendra dans les cinémas. Le nouveau roi des Juifs est né et les mages venus d'Orient viennent se prosterner devant lui. La tradition a développé beaucoup de choses. On les a appelés les rois mages. On leur a donné des noms. Gaspard, Melchior et Balthazar. Ce n'est pas dans la Bible. Vous avez entendu le texte. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'au travers de ces personnages, à qui on a donné des noms, à qui on a donné aussi des provenances diverses, dans le texte, on a les mages venus d'Orient. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Mais ce sont des gens qui scrutent le ciel. Sans doute des religieux de la religion de Zoroastrie, cette religion liée aux astres qui se trouve encore présente en Iran. Ces mages venus d'Orient sont transformés un peu avec nos Gaspard, Melchior et Balthazar, et du coup ils viennent de chacun des continents. Dans nos crèches familiales, on a un noir, un jaune, un blanc, signifiant ainsi l'universalité de Jésus. Et Matthieu ne se trompe pas. Après avoir pris le temps pendant tout un chapitre, le premier, d'avoir inscrit Jésus au cœur de ses racines juives, au cœur de son humanité inscrite dans ce peuple, avec la longue généalogie mathéenne, l'annonce à Joseph. Dans le deuxième chapitre, Matthieu ouvre Jésus à l'universalité avec cet épisode que nous venons de lire de la visite des mages, avec l'épisode suivant où Joseph part en escapade se réfugier en Égypte, le temps des derniers moments de vie d'Hérode le Grand, Jésus devient donc réfugié, exilé à l'étranger. C'est l'universalisme que veut décrire Matthieu au travers de ces histoires-là, au travers de ces récits. Remarquez combien le bouleversement vient toucher tout le monde. Hérode est bouleversé, tout Jérusalem avec lui. Un conducteur sortira de Bethléem, un conducteur, un berger, quelqu'un qui va guider, quelqu'un qui va orienter, quelqu'un qui va ouvrir la route. Que devons-nous faire ? Comme les mages. Les mages ont une seule attitude profonde décrite dans l'Évangile. On nous dit qu'ils se réjouissent d'une joie forte. Finalement, nous, quand est-ce que nous nous sommes réjouis d'une joie forte ? C'était quand la dernière fois? Peut-être c'était ces jours-ci. Peut-être ça remonte à quelques mois. Peut-être ça remonte à l'année dernière. Peut-être ça remonte à trop longtemps, si bien qu'on ne se souvient plus comment il faut se réjouir. Ils se réjouissent d'une joie forte. Et cette joie-là, cette joie que nous devons avoir, que nous devons entretenir en nous, nous prend tout entier, tout notre être, tout notre basar, c'est-à-dire toute notre vie, toute notre histoire, tout notre corps de chair, tout notre esprit, toute notre âme, toute notre force. C'est tout ça qui doit se présenter devant Jésus pour se prosterner et adorer celui qui est venu pour le salut de toute la création. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les pères de l'Église et la tradition y a vu ensuite l'or pour la royauté, l'encens pour la divinité, la myrrhe pour la passion. Peut-être pouvons-nous y voir aussi l'or pour notre propre royauté, l'encens pour notre propre sacerdoce, la myrrhe pour notre propre fonction de prophète. Et alors, ces trois matières précieuses viennent aussi, dans leur langage, dire notre être de baptisé, prêtre, prophète et roi que nous sommes pour être co-créateurs, co-incorporés, co-héritiers, co-participants de cette promesse qui nous est donnée, offerte déjà là, avec les mages, dans la maison, pas dans la crèche, dans la maison, à Bethléem, en Judée.